chers auditeurs, vous écoutez la Bible en question. Au micro, Catherine Mann et Anne-Marie Arbitre. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Catherine, bonjour à tous, ravie d'être avec vous.
Nous continuons d'explorer le thème que nous avons choisi cette année, c'est-à-dire le corps dans la Bible. Et lors de la dernière émission, nous nous étions arrêtés sur la question de la main et du serment, évoquant ainsi deux façons différentes dans la Bible de prêter serment, soit lever la main droite, ce que nous faisons encore, soit au contraire, la glisser sous la cuisse de celui à qui l'on fait un serment, qui est donc assis et qui est forcément un homme, car en fait il s'agit d'une façon pudique de dire qu'en glissant la main sous sa cuisse, on va aller toucher ses parties génitales. En effet, cet organe est considéré comme doublement sacré, d'une part parce qu'il permet la procréation, et d'autre part parce qu'il comporte un signe concret de l'alliance avec Dieu, la circoncision. Toucher cet organe mâle est donc une manière de rendre Dieu présent et de le prendre à témoin dans des circonstances importantes. Cette coutume existe aussi dans d'autres peuples du Moyen-Orient. Bref, quand il est question de cuisses dans la Bible, c'est en général pour évoquer la sexualité.
Oui, et nous sommes ainsi passés du symbolisme de la main à celui des organes génitaux. Et je propose donc, puisque nous y sommes, nous poursuivions donc en regardant ce que la Bible nous dit de cette partie du corps, à la fois secrète et essentielle quand même. Et d'abord revenons un peu sur la circoncision, car c'est quand même ainsi que Dieu fait alliance avec Abraham. Je vais vous relire donc la Genèse chapitre 17, versets 10 à 13. Là c'est Dieu qui parle. « Voici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, c'est-à-dire ta descendance après toi, tous vos mâles seront circoncis. Vous aurez la chair de votre prépuce circoncise, ce qui deviendra le signe de l'alliance entre moi et vous. Seront circoncis à l'âge de 8 jours tous vos mâles de chaque génération, ainsi que les esclaves nés dans la maison ou acquis à prix d'argent, d'origine étrangère quelle qu'elle soit, qui ne sont pas de ta descendance. » Mon alliance deviendra dans votre chair une alliance perpétuelle. » Et on peut lire un petit peu plus loin, versets 23 et 25. « Abraham prit son fils Ismaël, tous les esclaves nés dans sa maison ou acquis à prix d'argent, tous les mâles de sa maisonnée. Il circoncit la chair de leur prépuce le jour même où Dieu avait parlé avec lui. Abraham avait 99 ans quand il fut, fut circoncise la chair de son prépuce et Ismaël avait 13 ans. »
Donc la première circoncision a été faite à des adultes. Ensuite, ça deviendra une cérémonie quand le bébé a 8 jours. Et le mieux pour décrire cette cérémonie de la circoncision est peut-être de faire appel au Nouveau Testament. À Saint-Luc, d'abord au chapitre 1 de son évangile, les versets 57 à 64 que je vous lis, qui racontent la naissance de Jean le Baptiste. Pour Élisabeth, arriva le temps où elle devait accoucher. Elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur l'avait comblée de bonté. Ils se réjouissaient avec elle. Or, le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant et ils voulaient l'appeler comme son père, Zacharie. Or, sa mère prit la parole et dit, « Non, il s'appellera Jean. » Ils lui dirent, « Il n'y a personne dans ta parenté qui porte ce nom. » Et il faisait des signes au père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Je vous rappelle qu'il était muet à ce moment-là. Il demanda une tablette et écrivit ces mots, « Son nom est Jean. » Donc nous sommes ici devant une circoncision qui est très nettement une cérémonie communautaire. Tous les amis, toute la famille vient. Et c'est l'occasion de donner un nom à l'enfant, un peu ce que nous faisons au baptême. Ce texte nous rappelle donc que Jean-Baptiste est d'abord un membre du peuple d'Israël, marqué du sceau de l'alliance perpétuelle de Dieu avec Abraham, puisqu'il est circoncis.
Et c'est Saint-Luc qui évoque aussi la circoncision de Jésus. Si on reprend donc Luc chapitre 2, verset 21, « 8 jours plus tard, quand vint le moment de circoncire l'enfant, on l'appela du nom de Jésus, comme l'ange l'avait appelé avant sa conception. » Jésus aussi est né dans l'alliance d'Abraham. Il a donc reçu son nom lors de la célébration de sa circoncision. D'ailleurs, jusqu'en 1974, l'Église catholique fêtait la circoncision de Jésus et son saint nom le 1er janvier, donc 8 jours après Noël. Et c'est Paul VI qui a supprimé cette fête pour en faire une fête mariale. Ainsi, nous voyons qu'il y a un rapport entre la circoncision et le nom. Donc avec l'histoire même de la personne, sa vocation. Le nom de Jésus, rappelons-le, signifie en hébreu « Dieu sauve », ce qui annonce déjà sa mission de sauveur des hommes. Mais pourquoi Dieu a-t-il fait alliance avec Abraham de cette manière, par la circoncision? Quel rapport direct avec le sexe masculin? Les femmes ne sont-elles donc pas concernées par l'alliance? On voit bien que les racines de notre foi chrétienne posent au départ une inégalité, hein, puisque les femmes ne sont dans l'alliance d'Abraham qu'en tant qu'épouse ou fille, en tant qu'un petit peu propriété de l'homme, hein, comme les animaux, car même les esclaves mâles sont circoncis. D'ailleurs, on acquiert une épouse avec une dot, hein, on l'achète, hein, un petit peu, comme un bien, en quelque sorte.
Oui, c'est pas vraiment ça, mais c'est pas loin.
Pas loin.
Mais il y a quand même des obligations pour les femmes sur le plan sexuel. Et d'abord, le devoir absolu de virginité avant le mariage. Puis, l'interdit tout aussi absolu d'adultère. En fait, le devoir de la femme est d'être liée à un seul homme, sa propriété exclusive jusqu'à son décès. Après, l'épouse se doit de rester dans la famille en épousant éventuellement un frère du mari. Il serait aussi intéressant de regarder le chapitre 5 du livre des Nombres, parce qu'on y trouve une législation qui concerne la surveillance des femmes. Je vous lis les versets, pas tout parce que c'est très long, c'est du verset 11 à 31 du chapitre 5, je lis quelques passages. « Le Seigneur dit à Moïse, parle aux fils d'Israël et dis-leur, il peut arriver à un homme que sa femme se conduise mal et lui soit infidèle, qu'un autre ait à l'insu de cet homme des rapports avec elle, qu'elle se soit souillée en secret. Si, alors, un esprit de jalousie s'empare de cet homme et qu'il soupçonne sa femme, même sans qu'elle se soit vraiment déshonorée, cet homme amènera sa femme au prêtre. » Je vous passe, suis tout un long cérémonial pour, où le prêtre élabore ce qu'on appelle une eau d'amertume qui porte la malédiction. Ensuite, le prêtre fera comparaître la femme devant le Seigneur, la décoiffera, lui fera prêter serment, puis il fera boire à la femme l'eau d'amertume. Si la femme s'est souillée qu'elle a été infidèle, son ventre enflera et son sein dépérira. Si au contraire cette femme ne s'est pas déshonorée, mais qu'elle est pure, elle sera innocentée et restera féconde. Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question, et nous étions, avant la pause, en train de lire dans le livre des Nombres, au chapitre 5, la loi sur la jalousie, qui oblige une femme à subir une épreuve, c'est-à-dire boire une eau toxique, si son mari ressent un peu de jalousie à son égard. Si la femme est innocente, rien ne se passe, mais si elle a fauté avec un autre homme, elle tombera horriblement malade. Cette manière de discerner une culpabilité a existé chez nous, rappelons-le, jusqu'au Moyen Âge. Elle est appelée ordalie ou jugement de Dieu. C'est-à-dire que pour n'importe quel soupçon d'acte illégal, on soumettait les hommes ou les femmes à des tortures épouvantables. Le feu, l'huile bouillante, enfin... S'ils supportaient, on les jugeait innocents. Sinon, ben, tant pis pour eux. Donc ici, pour la Bible, il nous reste qu'à espérer que Dieu était vraiment présent dans tout ça et que la jalousie des maris n'a pas fait trop de victimes innocentes en Israël.
On peut toujours espérer. Mais la loi sur la jalousie est à sens unique dans la Bible. Hein. L'honneur qu'on met tant d'énergie à protéger repose uniquement sur la virginité de la femme ou sa fidélité conjugale. Les femmes sont vraiment surveillées de près. Les hommes, par contre, ne semblent jamais inquiétés. La circoncision masculine, finalement, c'est aussi une pratique de santé qui leur évite peut-être quelques désagréments. Mais ces lois de pureté imposées aux femmes sont à la limite de la maltraitance quand même, hein, en tout cas très humiliantes. Si on pense par exemple aux lois qui concernent la purification de la femme accouchée, que l'on trouve au chapitre 12 hein, du Lévitique. Versets 2 à 5, mais là aussi, je ne vais pas tout vous lire que les extraits. Si une femme enceinte accouche d'un garçon, elle est impure pendant 7 jours. Ensuite, pendant 33 jours, elle attend la purification de son sang. Elle ne touche aucune chose sainte et ne se rend pas au sanctuaire jusqu'à ce que s'achève son temps de la purification. Si elle accouche d'une fille, pendant 2 semaines, elle est impure. Et ensuite, elle attend 66 jours de purification. On entend dire parfois que ce sont simplement des règles d'hygiène, mais si c'était vrai, pourquoi faut-il doubler le temps de purification quand on accouche d'une fille ? Mystère.
Oui, il est certain qu'il existe dans la Bible une inégalité flagrante entre hommes et femmes, et cela dès la naissance. Et on ne peut même pas se réconforter en disant qu'il s'agit seulement des coutumes de l'Ancien Testament, puisque l'Évangile de Luc encore nous évoque ces cérémonies de purification auxquelles se sont soumis Marie et Joseph. Hein, je vous lis... j'ai pas noté le chapitre par contre, mais vous le retrouverez facilement, c'est au début de l'évangile de Luc. « Quand vint le jour où, suivant la loi de Moïse, ils devaient être purifiés, ils amenèrent Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. » Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petits pigeons. Et plus loin, lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. Donc, trois versets, 22, 24 et 29, dont on trouve quatre fois « suivant la loi ». Ceci nous montre bien que Marie a observé les lois d'Israël, strictement, dont celle de la purification. Les deux tourterelles offertes, l'une d'elles est pour l'expiation du péché. Ça nous est dit dans le Lévitique, chapitre 12, verset 8. Et c'est seulement après le sacrifice de ces oiseaux que le prêtre fera sur la femme un rite d'absolution. Après quoi, on dit enfin que la femme est purifiée. Absolution pour avoir accouché. Bon, voilà. Parce que tout écoulement, toute perte de sang sont considérés comme des impuretés, même les plus naturelles.
Oui, bref, la sexualité a énormément d'importance dans la Bible. Et il y a autour d'elle beaucoup de lois et d'interdits, car il faut bien sûr garantir la filiation, contrôler l'origine. Et aussi établir des règles d'hygiène, très certainement. Il y a d'ailleurs dans le Lévitique tout un chapitre, hein, le chapitre 15, qui traite des impuretés sexuelles. Et là, il est aussi question des impuretés masculines. Ce sont essentiellement les maladies, hein, décrites comme des écoulements suspects, comme pour les femmes, sauf que pour elles, tout écoulement de sang la rend impure, ce qui la rend intouchable pendant au moins 7 jours chaque mois, pendant lesquels elle ne peut pas s'approcher du sanctuaire, et si quiconque la touche, hein, ou touche même un objet qu'elle aurait touché, il est rendu impur jusqu'au soir. Alors, on peut ici évoquer le calvaire, hein, de la femme hémorragique dont parlent les évangiles. Je vous lis Marc, donc chapitre 5, verset 25. « Une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du fait des nombreux médecins, et avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Sans aucune amélioration, au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, avait appris ce qu'on disait de Jésus. Elle vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. À l'instant, sa perte de sang s'arrêta.
Voilà, ça devait être vraiment terrible pour cette femme, non seulement de souffrir dans son corps, mais en plus d'être une véritable exclue, traitée comme une lépreuse ou une pestiférée, perpétuellement frappée d'impureté. On voit d'ailleurs qu'elle vient par derrière, nous dit le texte, dans la foule, pour s'approcher de Jésus, comme si la honte l'empêchait de l'aborder de face. Il faut dire que le sang est un tabou essentiel dans la Bible. On le voit dès la Genèse, entre autres avec l'épisode de Caïn et Abel, le sang versé. À cause du sang versé, les hommes sont d'emblée mis à part. Elles ne peuvent pas être des hommes comme les autres. S'ajoutent à cela les exigences de la virginité dont on parlait tout à l'heure. La vie des jeunes filles ne devait vraiment pas être rigolote tous les jours. Alors, je veux aussi rappeler qu'en hébreu, c'est le même mot qui signifie « vierge » ou « jeune fille ». Quand on parle de la Sainte Vierge, ça pourrait être tout aussi bien la jeune fille. D'autant qu'on mariait les filles très jeunes à cette époque. En fait, c'est comme un pléonasme, puisque si on est une jeune fille, on est forcément vierge. On les mariait parfois dès leur pure puberté. 13 ans, Marie avait à peine 15 ans, dit la tradition, quand elle donne naissance au Christ. Là aussi, on peut imaginer que la Vierge Marie prit de gros risques, car l'évangile de Matthieu nous dit « Marie était accordée en mariage à Joseph, or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte. Ben, » donc, elle fut parfaitement hors la loi.
Oui, mais Joseph aussi.
Joseph aussi.
Voilà, car normalement, il aurait dû aussitôt la répudier et la dénoncer. N'ayant pas fait, il a sûrement été soupçonné d'avoir fauté avant la date du mariage, puisqu'il n'avait pas encore habité ensemble.
Voilà.
Donc, il n'était pas encore officiellement marié. Hein, mais ce ne devait pas être un aussi gros péché qu'une relation hors mariage de Marie, qui, elle, aurait été assimilée à de la prostitution et là, sévèrement punie.
Peut-être lapidée, oui.
Oui. Heureusement, tout s'est bien passé. Et la tradition chrétienne, apocryphe, nous dit même, dans le proto d'Évangile de Jacques, que Marie était encore vierge après avoir mis Jésus au monde. Cela fut certifié par une sage-femme. Et donc, naissance miraculeuse fut ainsi confirmée. Ce type de naissance miraculeuse n'est d'ailleurs pas particulier à la Bible. On en trouve aussi bien dans d'autres traditions antiques, en Inde, en Égypte ou en Grèce.
Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question, et nous parlons du corps dans la Bible. En fait, nous venons d'évoquer tous les problèmes de la sexualité, depuis l'alliance avec Dieu par la circoncision des hommes, jusqu'aux impuretés qui rendent infréquentables, et en particulier celles des femmes à cause du sang. Mais rappelons-nous que les apôtres ont supprimé tous ces interdits et ces obligations pour les chrétiens dès les années 50. Au Concile de Jérusalem. On trouve le récit de ces remises en question de la loi au chapitre 15 des Actes des Apôtres. Il ne nous est resté que très peu de règles, tout était supprimé, sauf vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité. C'est le verset 29 du chapitre 15. Mais s'abstenir de l'immoralité, ce n'est pas une petite chose. Après cette remarque, il est important de nous souvenir que nous étions en fait partie du symbolisme de la cuisse. Mais comme pudiquement dans la Bible on dit cuisse pour parler des organes génitaux, nous avons fait un long parcours à ce sujet, donc je vous propose de revenir à présent sur la vraie cuisse, celle qui a un grand os, le fémur, qui s'emboîte dans la hanche, car cette partie du corps a aussi de l'importance pour la Bible.
Oui, car cela nous amène à parler de Jacob et du combat avec l'ange au torrent de Yabok, que l'on trouve dans la Genèse chapitre 32. Je vous lis les versets 25-26. Et Jacob resta seul. Un homme se roula sur lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. Il vit qu'il ne pouvait l'emporter sur lui. Il heurta Jacob à la courbe du fémur qui se déboîta alors qu'il roulait avec lui dans la poussière. Alors, dans ce texte, il est question en fait d'un combat avec un homme, mais la suite du texte et un commentaire du prophète Osée précise qu'il s'agit d'un ange. Donc en fait, Jacob lutte avec Dieu. C'est ce que la tradition a retenu. Pour ce qui est de la courbe du fémur, d'autres traductions disent articulation de la hanche. Alors anatomiquement parlant, la cuisse de Jacob fut donc déboîtée. Je vous lis la fin de l'épisode, versets 31-33. Jacob appela ce lieu Peniel, c'est-à-dire face de Dieu. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Le soleil se levait quand il partit de Peniel, il boitait de la hanche. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, les fils d'Israël ne mangent pas le muscle de la cuisse qui est à la courbe du fémur. Il avait en effet heurté Jacob à la courbe du fémur, au muscle de la cuisse.
Alors, il n'est pas certain quand même que « muscle de la cuisse » soit la bonne traduction, car ça pourrait être « muscle » ou « nerf ». Or, dans ce cas, il s'agirait plutôt du nerf sciatique. Car effectivement, le judaïsme a gardé de ce texte, dans la cache-route, les obligations alimentaires, le nikour, c'est-à-dire l'obligation de prélever le nerf sciatique, ainsi que la graisse et tous les vaisseaux sanguins de cette région de la hanche des animaux que l'on consomme. Et vous pouvez vous imaginer que c'est une opération d'une difficulté inouïe, tant il y a de petites ramifications. La viande est complètement déchiquetée. Alors, le texte que Anne-Marie vient de lire, là, c'est dit jusqu'à aujourd'hui dans la Bible, mais c'est valable encore aujourd'hui, ça. Puisque cette règle de la cache-route devrait encore être respectée de nos jours. Or, en fait, elle n'est plus guère appliquée qu'en Israël. Parce qu'en Europe et aux États-Unis, pour des raisons de rentabilité de la viande cachère, le judaïsme a carrément préféré ne pas consommer du tout cette partie du corps de l'animal, en fait l'arrière du corps. Donc, de fait, actuellement, les Juifs ne consomment pas les muscles de la cuisse des animaux. Ce qui explique sans doute le choix du traducteur. Mais en ce qui concerne la cuisse des êtres humains, nous pouvons quand même encore ajouter une petite particularité de la Bible. C'est une expression, se frapper la cuisse, qui n'a vraiment rien de commun avec nos habitudes occidentales d'aujourd'hui.
Oui, parce que pour nous, se frapper la cuisse évoque plutôt les grandes rigolades où on se tape sur la cuisse comme geste de défoulement ou se tordant de rire. En fait, dans la Bible, on se frappe la cuisse pour exprimer la douleur morale. Je vous lis le passage du livre du prophète Jérémie, au chapitre 31, verset 19. « Car après m'être détourné, je suis plein de repentir. Sitôt que je me vois sous mon vrai jour, je me frappe la cuisse. Sur moi, honte et déshonneur. Ma jeunesse a été un scandale. J'en supporte les conséquences. » Donc on voit bien ici ce geste de se frapper la cuisse exprime le regret, la souffrance d'avoir péché. En fait, généralement, les Bibles traduisent par « je me frappe la poitrine » avec une petite note en bas de page pour dire que le texte original, c'est la cuisse. Effectivement, donc, nos habitudes gestuelles sont plutôt d'exprimer la douleur ou la culpabilité en se frappant la poitrine. Voici un autre exemple dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 21, verset 17. « Crie, hurle, fils d'homme, l'épée sévit parmi ton peuple, elle sévit parmi tous les princes d'Israël. Ils ont été précipités sur l'épée de mon peuple, avec mon peuple, frappe-toi donc la cuisse. » Donc ici aussi, hein, ce geste veut exprimer la douleur morale, aussi la repentance, car nous sommes dans un contexte d'épreuve envoyé par la colère de Dieu contre les impiétés de son peuple.
Voilà, et pour terminer notre émission, il nous reste à descendre légèrement la cuisse jusqu'au genou, pour en dire quelques mots. Le genou est intéressant aussi parce que le mot hébreu « berek » vient de la même racine que le verbe « barak » qui veut dire « s'agenouiller » ou « bénir ». Barack Obama, c'est le béni. Sans doute parce qu'on s'agenouille pour prier Dieu et en recevoir une bénédiction. Je suppose, je ne sais pas.
Ça ne peut être que la seule explication. Parce que
c'est difficile de voir le rapport entre bénir et genoux. Je lis dans le livre, premier livre des rois, la fin de la prière, la grande prière du roi Salomon, verset 34, qui dit ceci. « Dès que Salomon eut fini d'adresser au Seigneur toute cette prière et cette supplication, il se releva de devant l'autel du Seigneur où il s'était agenouillé. » Donc les grandes prières d'Israël se faisaient à genoux. Il nous reste quelques traces en français, c'est amusant, de cette racine sémitique. Elle peut être aussi bien arabe que juive. Le double sens, pour faire s'agenouiller des chameaux. Le verbe en français dit qu'on fait baraquer des chameaux. Mais également, on parle de la baraka. Et la baraka, on traduit par chance, mais ça sous-entend en fait la bénédiction de Dieu. On a de la chance parce que Dieu vous bénit. Reste que fléchir le genou, c'est un geste d'adoration. Et pour ça, le plus bel exemple se trouve dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, dans l'admirable description que saint Paul fait du Christ. Je vous lis juste les versets 9 à 11. « Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et c'est sur ce magnifique texte que nous vous disons au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.
Au revoir Catherine, au revoir à tous, à bientôt.